Voilà, alors au cours de la participation à la communion de la Sainte-Seine tout à l'heure, nous avons entendu l'hymne national d'Israël. Et c'était l'occasion pour nous hier d'être invités dans une famille juive. Alors, on a passé un super après-midi. C'était à l'occasion de l'anniversaire d'un des enfants de cette famille. Et ça a été l'occasion de parler de la situation en Israël. Et puis, à la fin de l'après-midi, c'était aussi pour moi l'occasion de parler un peu de l'Évangile. Voilà. Que nous, en tant que chrétiens, nous prions pour Israël, pour qu'ils connaissent d'une manière, chaque Israélite connaisse personnellement le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est marrant parce que quand on connaît ces familles, c'est pas la première d'ailleurs que je côtoie, ce sont des gens très respectueux des autres, tolérants par rapport à des opinions qui peuvent être différentes, mais très respectueux, même s'ils sont fiers d'être juifs. Mais c'est une fierté respectueuse et discrète. Et donc, je prie que le Seigneur me donne d'autres occasions de leur parler de l'Évangile, mais plus clairement encore, parce que c'était assez furtif cette fois-ci, et de parler de l'Évangile de Jésus-Christ seul. Je dis ça parce que, vous le savez très certainement, le monde catholique fête ce long week-end, fête l'Assomption. C'est, vous savez, c'est l'élévation corps et âme de Marie, mère de Jésus, l'élévation au ciel à la rencontre de Dieu. Tradition catholique est arrivée autour du 5e siècle après Jésus-Christ, donc une pure invention humaine qui malheureusement détourne les yeux depuis des décennies, peut-être des siècles, de millions et de millions de millions d'hommes et de femmes de la vérité, de la seule vérité qui soit, de l'essentiel, de ce qu'est l'essentiel. Et ce qu'est l'essentiel, j'aimerais que Jean-Baptiste nous le montre ce matin. Ou nous le remontre à nouveau si on l'a perdu de vue. Et effectivement, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, il y avait un tas de foules autour de lui qui le suivaient, Jean-Baptiste a montré l'essentiel. Il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, après avoir parlé il y a quelques semaines, je crois, ça peut remonter à plus loin, de ce sujet qui est la voix du sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Je ne sais pas si vous en souvenez. J'aimerais ce matin parler du Seigneur Jésus-Christ comme Jean-Baptiste en a parlé. Et ça, c'est vraiment intéressant de regarder ce qu'il en a dit. Et cela, quelque temps après l'avoir baptisé. Et si vous prenez avec moi l'évangile de Matthieu au chapitre 3, alors, on va pas le lire, vous pouvez écouter, parce que ce ne sera pas notre lecture. Chronologiquement, ce ne sera pas notre lecture tout de suite, on va le prendre après. Chronologiquement, on y voit, on y raconte d'abord, à la fin de ce chapitre, le baptême de Jésus. Et puis, ensuite, au chapitre 4, le Seigneur est conduit dans le désert et pour y rester 40 jours et 40 nuits et y être tenté par le diable. Et enfin, l'histoire nous raconte cela. Jésus repart, parce qu'il venait de là, il repart en Galilée. Et c'est quelques temps après, quelques semaines après, on ne sait pas exactement, et c'est en Galilée qu'il y rencontre ses premiers disciples. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Jean, dans l'évangile donc, qui porte son nom, au chapitre 1, nous dévoile cette expression bien connue que Jean-Baptiste a utilisée pour désigner son maître au verset 29 et au verset 36. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, j'ai essayé de me remettre dans l'époque, des siècles en arrière, et me mettre dans la peau des gens qui étaient là. C'était très certainement pour un très grand nombre de personnes autour de lui une forme d'expression vraiment surprenante et inattendue, même si historiquement, eh bien, c'est quelque chose qui avait été dit plus d'une fois dans l'Ancien Testament. Parce que Jean-Baptiste aurait pu dire « Voici le Messie, voici le Christ, voici le Fils de Dieu. » Comme l'évangile de Jean au chapitre 21 termine son évangile au verset 31, oui, en disant « Voilà, cet évangile a été écrit pour que vous croyiez au Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Mais non, là, Jean-Baptiste aurait pu peut-être aussi parler du prophète avec un grand P, ou du roi d'Israël, présenter le roi d'Israël. Tant les titres étaient nombreux pour désigner celui qui allait venir après lui. Parce que Dieu avait donné ce rôle à Jean-Baptiste de préparer la venue de Jésus-Christ. Non, à la place, il utilise cette appellation d'agneau de Dieu. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, cela, alors que tout le reste de l'évangile de Jean parle de Jésus avec d'autres titres, d'autres noms. C'est donc qu'il y a une raison, parce que vous savez qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu qui n'est dit ou fait au hasard. On l'a vu un peu mercredi soir, toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Donc pour enseigner, pour convaincre, corriger et instruire dans la justice. Et donc l'utilisation de ce terme assez original à ce moment-là, voire nouveau pour beaucoup de gens, même si ce terme est historique, comme je l'ai dit, eh bien devait être pour Jean-Baptiste motivé, mais vraiment par une impression particulière et forte qu'il avait reçu lors d'une rencontre antérieure. Parce que sinon, il n'aurait pas pu dire ce qu'il a dit là. Une seule rencontre nous est rapportée dans les évangiles qui a précédé ce moment où Jean-Baptiste a prononcé cette expression. C'est celle du baptême. Et j'aimerais qu'on lise ce passage. Donc dans Matthieu chapitre 3. Pourquoi donc Jean-Baptiste a-t-il appelé Jésus l'agneau de Dieu? C'est ma question. Attends. Et donc la réponse doit être cherchée dans cet épisode important qu'est le baptême de Jésus. Mais pour bien saisir également le rôle de Jean-Baptiste, j'aimerais prendre la lecture dès le verset premier du chapitre 3. Si vous voulez bien. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ça fait beaucoup de monde, hein. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et voilà le texte qui va nous intéresser. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Que Dieu bénisse sa parole. Peut-être une petite remarque, verset 15. Il dit, Jésus, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est ce que nous avions dit aussi, c'est le même mot que 2 Timothée 3,16, pour instruire dans la justice. Ça veut dire, je vais le dire autrement, il est convenable que nous accomplissions ainsi toute la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, que nous accomplissions d'une manière pratique dans la vie courante. Et là, c'est quelque chose qui va être visible de tous. Et Jésus a dit à Jean-Baptiste, donc, il est juste de faire cela. Et que nous le fassions ensemble, toi et moi, en parlant de Jean-Baptiste. On a ici un dialogue bien connu, hein, entre Jésus et Jean-Baptiste. Alors, je vais essayer de le rendre un peu vivant. Il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, là. Il n'a peut-être pas été aussi virulent. C'est pas moi qui dois te baptiser, Jésus. C'est toi qui dois me baptiser. Et alors, Jésus, rempli de sagesse et d'humilité, lui répond non. Laisse faire maintenant, je reprends la phrase, parce qu'il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, c'est-à-dire tout ce que Dieu demande d'accomplir. Vous voyez déjà à la fois son humilité et son esprit d'obéissance à Dieu, son Père. Alors le baptême de Jean, à ne pas confondre avec le baptême chrétien. Parfois, c'est difficile à faire la différence. Le baptême chrétien, il est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ou comme le dit Matthieu 28, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même chose. Alors que le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance qui annonçait la venue du Seigneur Jésus, comme on l'a lu, qui lui baptisera par la suite du Saint-Esprit et de feu, le feu purificateur. Et c'est l'image qui est donnée. Lorsque Jésus nous sauve, il nous baptise du Saint-Esprit, mais il nous purifie également. Nous sommes appelés ses saints, saints de position, mais il nous purifie, il nous pardonne nos péchés. Autrement dit, lorsque un Israélite venait à Jean-Baptiste, quel qu'il soit, et qui venait se faire baptiser par Jean-Baptiste, la première chose qu'il faisait, c'est la confession de ses péchés. Il confessait ses péchés, et c'est ainsi qu'il se repentait devant Dieu, et cette personne recevait alors le baptême de Jean-Baptiste comme signe de purification et qui lui montrait que Dieu avait pardonné ses péchés. Mais cela, même si tout le monde ne le savait pas, c'était toujours en vue de l'accomplissement parfait de la croix de Jésus, qui, elle, pardonne parfaitement et définitivement tout pécheur qui se repent sincèrement devant lui. Et d'ailleurs, peut-être ne le savez-vous pas, mais tout pardon de péché qui se faisait jusque-là, et celui qui sincèrement venait à Dieu en se repentant et en demandant pardon, était effectivement pardonné par Dieu. Mais ça a toujours été dans la perspective du plein accomplissement du pardon qui était fait en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a dit « Tout est accompli », alors effectivement, tout a été accompli à la croix pour pardonner parfaitement et définitivement celui ou celle qui venait, qui vient ou qui viendrait à lui dans une foi sincère et dans une repentance sincère. Mais alors, si Jean-Baptiste pratiquait le baptême de repentance, au cours de son baptême par Jean, mais alors, quel péché Jésus avait-il pu confesser ? Ce n'est pas une question que vous vous êtes posée, puisque Jean-Baptiste, et c'était son rôle, baptisé, et c'était un baptême de repentance. Ça ne vous a jamais perturbé ? Ça ne vous a jamais interroger ? Pourquoi alors l'a-t-il fait ? Et pourquoi Jésus a-t-il dit à Jean-Baptiste, il faut que cela s'accomplisse parce que c'est juste. Alors quel péché Jésus a-t-il pu confesser là ? Aucun, puisque il n'a jamais péché de toute sa vie. Il est le Dieu incarné, le Dieu fait chair, trois fois saint. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1, verset 21 nous dit. Et il nous le témoigne, celui qui n'a point connu le péché. Et donc la réponse à cette question se trouve dans le pronom « nous » de ce verset. Et je vous invite à prendre avec moi 2 Corinthiens 5, 21. Sa prière de confession, parce qu'en se faisant baptiser, il a dû, Jésus, confesser quelque chose. Cela ne nous est pas rapporté, c'est vrai, mais moi je le crois. Il a dû confesser quelque chose. Mais sa prière de confession est une prière de confession collective. Ainsi, lui, sans péché, s'identifiait à l'homme pécheur que vous êtes et que je suis, le reconnaissant coupable, et affirmant son besoin de repentance pour être pardonné. Et donc, par cette confession, Jésus indique qu'il veut porter sur lui-même le péché des hommes. Voilà ce qui est juste, ce que Dieu, le Père, veut. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est le même terme, justice de Dieu. Revêtu de la justice de Christ, eh bien, nous devenions en lui justice de Dieu. Le Seigneur Jésus montre également, dans cet acte de baptême, sa soumission et son humilité. En faisant donc ce qui est juste et ce que Dieu demande. D'abord, sa soumission. Voilà un terme qu'on n'ose plus utiliser aujourd'hui. Soumission. Alors, pas du tout. Je m'y oppose. Ce terme est absolument impopulaire. Il ne faut surtout pas aujourd'hui le prononcer. Il est plus acceptable d'insister sur l'égalité. N'est-ce pas ? L'égalité des droits. L'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité sociale entre tous. L'égalité des peuples. Et de cette façon, on va attirer la sympathie de la majorité. Ah, c'est super. Et là, on ne va pas être embêté. Hein. Je vous le dis. Alors, la soumission, c'est ringard. C'est dépassé. J'ai même entendu, il y a très longtemps, quelqu'un, je n'avais pas compris à l'époque, c'est has-been. Pourtant, frères et sœurs, au regard du baptême de Jésus, elle est une vertu chrétienne qui doit caractériser, premièrement, la relation de tout croyant avec Dieu et sa volonté, la soumission. Elle doit, deuxièmement, se retrouver pour tout croyant, tout véritable chrétien ou chrétienne, au cœur de ses relations, à l'intérieur de la famille spirituelle, nous soumettons les uns les autres dans la crainte de Christ. Et enfin, la soumission également doit s'exercer vis-à-vis des autorités civiles du pays où le croyant ou le chrétien demeure. C'est normal. Et cela également fait partie de la volonté de Dieu. Et donc, si Jésus, par soumission à son Père, ne s'était pas identifié à nous pécheurs, mais il n'aurait jamais pu mourir pour les hommes. On peut voir ça dans Hébreux chapitre 2. Je le lis pour vous. Hébreux chapitre 2, verset 17. Il nous dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il a dû donc partir de sa gloire, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Par son baptême, il s'est donc abaissé au niveau de l'homme pour s'identifier à lui. C'est pourquoi il demande à Jean-Baptiste de se faire baptiser. On y décèle aussi toute son humilité. Parce que la question peut être aussi posée, je me la suis posée. Est-ce que Jésus pouvait s'identifier à l'homme, s'identifier à sa condition de pécheur, sans se faire baptiser par Jean, Baptiste ? Bah, on peut se poser la question, hein, elle est légitime. Est-ce qu'il aurait pu ? Bah oui ! Il aurait pu. Comme il aurait pu ne pas aller à la croix. Jésus aurait pu se passer du baptême pour s'identifier à nous, c'est certain. Parce que il n'avait aucune obligation légale de le faire. Pourtant, Jésus s'est soumis au baptême de Jean. Et même si, vous l'avez remarqué, Jean, au départ, n'approuvait pas cette idée, eh bien, il s'est soumis, Jésus, au baptême de Jean, parce qu'il s'agissait d'une ordonnance de Dieu. Et donc, Jésus a toujours voulu faire la volonté de Dieu. Mais voyez dans cette attitude la soumission et l'humilité du Seigneur Jésus. Quand on y regarde de près, on est loin du compte, nous, personnellement. Vraiment. Nous soumettons, nous, jour après jour, à la volonté de Dieu qui est clairement exprimée, exposée dans sa parole. Est-ce que nous faisons preuve tous les jours par rapport à notre prochain, notre frère, notre sœur, d'humilité ? Considérant l'autre comme étant au-dessus de moi-même, cherchant son intérêt avant de chercher d'abord le nôtre. On comprend d'ailleurs bien l'opposition de Jean, qui reconnaissait en Jésus quelqu'un de supérieur à lui. Alors je me suis dit, mais comment pourrait-on donc définir la grandeur du Seigneur Jésus ? Dans ces conditions-là. Eh bien, par le fait que le plus grand se soumet au plus petit. Voilà la grandeur de Jésus. Le plus grand s'est soumis au plus petit. D'une façon volontaire. Et cette forme d'humilité a toujours caractérisé le Seigneur. Et son attitude parmi tous les hommes qu'il a croisés. On ne peut pas en dire autant de nous. Hein. Prenez l'exemple où le Seigneur s'est trouvé avec ses disciples peu avant l'épisode de la croix, où il leur a lavé les pieds. Alors, l'apôtre Pierre, eh bien... Il a réagi comme Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Dans Jean chapitre 13, versets 6, 7 et 8, je l'ai noté, Pierre dit à Jésus, « Toi, Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. » Comme Jean-Baptiste a dit la même chose avec d'autres mots. « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Textuellement, c'est ça. Pierre était en train de lui dire, « Seigneur, toi, tu es le maître, et moi, je ne suis que ton petit disciple. Alors quoi ? C'est moi qui devrais te laver les pieds, et pas toi me laver les pieds. » Comment le Fils de Dieu peut-il s'abaisser de la sorte ? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, Philippiens chapitre 2 nous en donne la clé. Alors, est-ce qu'on peut prendre Philippiens chapitre 2 ? C'est des textes que nous connaissons. Mais est-ce que nous en sommes imprégnés ? Philippiens chapitre 2, qui nous révèle la base fondamentale sur laquelle repose une caractéristique essentielle de la vie chrétienne. Et qu'on trouve là, dans le verset 5. C'est l'apôtre Paul qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc la soumission en fait partie. L'humilité en fait partie. L'humilité de Jésus se voit au verset 6. « Existant en forme de Dieu, il n'a point et sa soumission, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Et puis verset 7. Jésus savait qu'il devait s'identifier en tant qu'homme à la condition humaine. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Et puis verset 8, Il a choisi de vivre dans l'humilité et la soumission à son Père jusqu'à la fin. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et regardons la réaction de Dieu, du Père, face à cette attitude. Alors, versets 9 à 11, il faut terminer par cela. C'est pourquoi, eu égard à la soumission et à l'humilité volontaire du Seigneur Jésus, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez que tous les véritables enfants de Dieu, un jour, eh bien, seront avec Christ pour gouverner le monde. Mais seulement ceux qui se seront soumis, remplis d'humilité à la volonté de Dieu. Jésus s'est humilié, s'est soumis, et Dieu l'a élevé au-dessus de tout, parce que son Fils n'a jamais cherché, contrairement aux hommes, contrairement à nous, à s'attribuer quelque gloire que ce soit. Est-ce que l'attitude du Seigneur Jésus ne vous touche-t-elle pas ce matin? Est-ce que, quand je me regarde, elle ne devrait pas me pousser à la repentance? On peut ajouter ceci, à savoir que le Seigneur n'a jamais exigé de qui que ce soit, que la personne soit croyante ou pas, ce que lui-même n'a pas réalisé. Si Jésus appelle les hommes encore aujourd'hui à la repentance, c'est parce qu'il s'est soumis lui-même au baptême de repentance. Pas pour être pardonné de ses propres péchés, mais pour donner un exemple pour nous tous, sachant qu'il s'est identifié à nous à ce moment-là. Il savait que peu de temps après, il allait porter nos propres péchés à notre place, pour que nous-mêmes nous puissions être pardonnés et justifiés. La repentance, c'est un changement complet de direction morale et de mentalité. Jésus n'avait pas besoin de changer son attitude, bien sûr, à l'égard du péché, puisque il n'avait pas de péché en lui-même. Mais pour nous en donner un exemple, mes amis, sa vie a commencé à changer du tout au tout au moment de son baptême par Jean-Baptiste. Vous avez remarqué ça? Toute sa vie a changé à partir du moment où il s'est fait baptiser. Il arrêta sa profession de charpentier, parce que jusque-là, il était charpentier. Son père lui avait appris beaucoup de choses. À partir de là, il quitta sa maison pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Sa vie a totalement changé à partir de là. Il reçoit le Saint-Esprit et il accomplit la volonté de Dieu durant toutes les années qui vont lui rester sur terre. C'est à partir de là que Jésus donne l'exemple lui-même, donc par son baptême et par un changement radical de vie. Nous lisons ça dans Matthieu chapitre 4, verset 17, où il dit que, eh bien, il commença son ministère en annonçant l'Évangile et le royaume de Dieu. Et les 3 ans qui ont suivi, eh bien, a été consacré à cela, à la formation de ses disciples, à la prière. Sa vie a totalement changé à partir de là. Sa vie est dans l'action. cet esprit de soumission et d'humilité a marqué l'ensemble de son ministère terrestre. Eh bien, cette attitude de soumission et d'humilité, comme nous venons de le décrire, va également marquer profondément l'esprit de Jean-Baptiste. Avec de l'encre indélébile, vous savez, au point que cela va lui permettre d'établir un lien avec plusieurs événements qui se sont déroulés dans l'Ancien Testament, et ça j'en suis convaincu. Les deux plus connus, par exemple, on peut commencer par le premier, Exode chapitre 12, nous parle en fait de l'agneau pascal et son sang versé sur l'ordre de Dieu a été mis sur les poteaux et le linteau de la porte de l'Israélite pour mettre le premier-né à l'abri du jugement, de façon à ce qu'il soit épargné. Il fallait donc sacrifier un agneau, recueillir son sang et le répandre sur la porte de la maison. Et tous ceux qui ont obéi à cet ordre-là ont été épargnés. L'agneau pascal est donc devenu à ce moment-là la victime expiatoire pour tous ceux qui étaient dans la maison. Et puis l'autre événement auquel Jean-Baptiste devait se référer, c'est presque sûr, c'est le passage d'Ésaïe 52 et 53, qui nous parle du serviteur de Dieu. Pas du maître au-dessus des autres, non, du serviteur de Dieu qui s'est abaissé. Et ça a marqué Jean-Baptiste. Symbolisé par cet agneau qui a suivi pour nous sauver le chemin de la parfaite obéissance et de l'entière soumission. Il a été maîtrisé, nous dit le texte, délaissé, meurtri, frappé pour les péchés, soumis à la souffrance et à la mort, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Ésaïe 53, verset 7. Et Ésaïe annonce, oui, qu'un jour un serviteur allait venir. Et pour Jean-Baptiste, le lien s'est fait dans son esprit. C'est lui le serviteur. Voilà. Voici l'agneau de Dieu, je vous le montre, qui ôte le péché du monde. Voilà l'essentiel. Il n'y a rien d'autre qui compte. Jean-Baptiste a conscience que Jésus est une victime innocente, là, mais dont le sacrifice va libérer les hommes de leurs péchés dès l'instant où ils s'approcheront de lui dans la repentance et la foi. Jean-Baptiste ne dit pas à ce moment-là, voici un agneau parmi tant d'autres. Il dit l'agneau, sous-entendu, c'est le seul qui peut sauver. C'est le seul qui peut pardonner. Marie ? Non. Alors, Jean-Baptiste leur dit, en quelque sorte, c'est l'agneau qu'on attend. Vous le savez bien. Eh bien, le voici. Il leur montre. Beaucoup de gens se feront baptiser par lui, beaucoup ne se feront pas baptiser par lui. Mais nous savons que dans la suite de la parole de Dieu, il est question de gens, de personnes qui s'étaient fait baptiser par Jean et qui par la suite se sont fait baptiser du baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus. C'est donc que le baptême de Jean-Baptiste ne suffisait pas, bien sûr, mais il était précurseur par rapport à la venue de Christ et ce qui allait se passer. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter, c'est-à-dire enlever, emporter le plus loin possible de telle manière que personne ne puisse plus le voir. Autrement dit, c'est une façon de dire non seulement que les péchés sont couverts, mais Dieu les a détruits. Alors que pour les croyants, jusque-là, ils n'étaient pas détruits. Ils étaient couverts dans la perspective du sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix. Et l'apôtre Jean, maintenant, pas Jean-Baptiste, l'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile, qui porte son nom, et qui rapporte donc cet événement qui est capital, a dû lui aussi être fortement marqué par cette expression, l'agneau de Dieu, parce que dans l'un de ses livres, qui est l'Apocalypse, il va utiliser cette expression pas moins de 30 fois. 30 fois. Le mot agneau est utilisé. Apocalypse 5, verset 6, Apocalypse 7, 13 à 17, Apocalypse 19. Tous ces passages nous en parlent. Et nous parle, en parlant de l'agneau, des noces de l'agneau. Des noces de l'agneau. Jésus qui réunit son Église. Est-ce que nous faisons partie ce matin de ceux qui seront invités aux noces de l'agneau? Sinon, aujourd'hui, c'est encore le moment. Demain, peut-être non. Pour confesser ses péchés devant le Seigneur. Dans votre cœur, face au Seigneur. Croire en l'agneau de Dieu, donc. Donné en victime expiatoire à votre place. Qui a porté et ôté vos péchés. Et recevoir ainsi l'invitation par la suite de Jésus. Pour aller aux noces de l'agneau. Et puis, si pour nous, enfants de Dieu, le chemin de la confession des péchés, de la repentance et de la foi est toujours d'actualité pour que nous entretenions une relation et une communion avec Dieu, le Père, tous les jours, eh bien, il n'est pas moins vrai que l'attitude de Jésus à travers sa soumission et son humilité au Père par l'exemple qu'il a donné, par sa vie transformée qu'il nous a montrée, eh bien, nous appelle à le suivre de la même manière. Donc, quotidiennement, dans la soumission et dans l'humilité, dans notre relation avec lui, dans notre relation les uns avec les autres. Et Dieu, comme il l'a fait avec Jésus, nous élèvera au temps convenable. C'est sa promesse. Regardez avec moi, pour terminer, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 7. Voilà la promesse de Dieu à travers ce que dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, oui, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jean-Baptiste a été marqué par cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Que Dieu nous accorde par sa grâce, mes amis, d'être également marqué à vie, comme l'a été Jean-Baptiste, par notre rencontre personnelle avec le Seigneur, que nous pouvons avoir peut-être aujourd'hui, si jamais vous ne l'avez eu, ou jour après jour, si nous sommes des enfants de Dieu. Et vivre ainsi dans une foi humble et soumise à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui est juste, afin que nous accomplissions ce qui est juste. Voilà ce que nous demande le Seigneur. Et c'est ce que je souhaite à chacun ce matin. Et j'aimerais que l'on chante ce cantique qui nous parle de l'agneau de Dieu. Amen. Voilà.